Alors, non seulement, venons de voir, le monde musulman est en pleine effervescence en cette fin d'année 1979, mais le 27 décembre 1979, l'armée soviétique entre en Afghanistan. Donc, on voit bien que la zone devient encore plus une zone de conflit direct. Alors, ce qui est considéré par les soviétiques comme une action défensive destinée à maintenir au pouvoir un régime client, mettre fin à ces violences factionnelles et écraser la révolte islamique en cours en Afghanistan, est perçu par les Occidentaux comme une nouvelle phase de l'expansion soviétique à destination des mers chaudes, c'est-à-dire le Golfe en priorité, Golfe persique ou arabe ou arabo-persique, selon que vous voulez chagriner ou pas chagriner des gens de la région. Si vous mettez un arabo-persique, persique, vous chagrinez les deux à la fois. Alors, immédiatement, les États-Unis renforcent leur présence militaire dans l'océan Indien face à la menace virtuelle soviétique sur les pays du Golfe à travers l'Iran, liée à l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et surtout, le 23 janvier 1980, Carter énonce ce qui va s'appeler dans la doctrine Carter devant le Congrès des États-Unis. Les troupes soviétiques d'Afghanistan sont à portée d'intervention de la région du monde contenant les deux tiers des exportations mondiales de pétrole. Les soviétiques sont à moins de 300 miles de l'océan Indien et du détroit d'Ormuz, voie par laquelle passe la plus grande part du pétrole mondial. L'Union soviétique tente de consolider une position stratégique qui pose une grave menace pour une libre circulation du pétrole du Moyen-Orient. Il faut que notre position soit claire. Toute tentative d'une force extérieure de prendre le contrôle de la région du Golfe Persique sera considérée comme une attaque contre les intérêts vitaux des États-Unis et une telle attaque sera repoussée par tous les moyens nécessaires, y compris la force militaire. C'est un avertissement solennel envoyé par les États-Unis qui se concrétise immédiatement par l'officialisation d'une force en voie d'émergence qui s'appelle la force d'intervention rapide, capable de se projeter rapidement du territoire américain dans la région du Golfe. Donc officiellement, la force d'intervention rapide est créée en janvier 1980. C'est le noyau de ce qui deviendra en janvier 1983 le Central Command, US CENTCOM, qui est donc le commandement des forces américaines pour les régions de l'océan Indien. Autrement dit, vous avez là les genèses des guerres successives d'Irak et d'Afghanistan, puisque c'est en janvier 1980 que commence la concentration militaire américaine dans les régions du Golfe. Alors, vous voyez brusquement comment toutes les choses commencent à se mettre en place. Bon, évidemment, toujours la lecture rétrospective des historiens. Mais on voit maintenant clairement toutes les étapes, à la fois des mouvements islamiques, des restructurations du dispositif militaire américain et de la fin de la guerre froide. Car maintenant, la détente est définitivement terminée pour les États-Unis. Détente était un mot français utilisé par la langue politique américaine depuis l'époque de Nixon pour signifier... c'est pour ça que même en anglais, ça s'écrit avec un accent. Il y avait l'amiral Sanguinetti qui disait qu'en France, que la détente, ça servait à tirer. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, L'une des autres décisions essentielles prises au début de l'année 1980 par l'administration Carter, c'est d'entrer en relation avec les services secrets pakistanais pour ravitailler en armes les moujahidines afghans contre l'armée rouge. Donc se met en place la connexion CIA, les I, donc les services secrets pakistanais, et le début de l'implication américaine via les Pakistanais sur les Mujahideen afghans, puisque, comme le dira Brzezinski, notre but est de saigner l'armée rouge en Afghanistan. Alors évidemment, les Soviétiques appellent ces gens-là des terroristes et les Américains les appellent des freedom fighters, des combattants de la liberté. Quand il y aura un retournement dans quelques années après des dits freedom fighters, ils repasseront dans la case terroriste. Alors, au Proche-Orient, c'est à savoir qui va servir directement aux intérêts américains. C'est-à-dire de savoir entre l'Égypte et Israël qui sera le meilleur atout pour la politique américaine. Et Israël est très vexé parce que, franchement, Israël ne peut rien faire pour soutenir les moujahidines afghans. On voit mal comment. Tandis que l'Égypte, elle, est beaucoup mieux armée pour intervenir à distance. Et donc, l'Égypte, les services secrets égyptiens se mettent en contact avec les Saoudiens pour livrer des armes ex-soviétiques, puisque l'Égypte a des stocks très considérables d'armes soviétiques, aux Mujahideen afghans. Puisque ce sont des armes soviétiques, les Mujahideen pourront toujours dire qu'ils les ont prises à l'armée rouge. Et donc, tandis que ce sont des armes américaines, ce serait un peu plus compliqué à expliquer. Alors, dans ce cadre-là, les discussions Begin-Sadat se poursuivent, les Israéliens s'inquiétant du fait justement du réchauffement des relations américaines avec les États arabes modérés, puisque ces États arabes modérés peuvent entrer dans la stratégie américaine de défense du Golfe et de lutte avancée en Afghanistan. Tandis que, franchement, on ne voit pas l'armée israélienne intervenir dans le Golfe pour bloquer l'armée rouge. Ce serait plus difficile à faire avaler. Le seul qui est lucide dans la période, d'ailleurs, c'est curieusement Arafat, qui déclare aux Américains qu'ils peuvent rallier momentanément les musulmans contre l'Union soviétique, mais que ces derniers se retourneront ensuite contre eux tant que la question de Palestine ne sera pas réglée. Tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien, il n'y aura pas de ralliement des Arabes et des musulmans à la politique américaine. Au début de février 1980, la Syrie annonce un redéploiement de ses forces au Liban avec l'abandon d'un certain nombre de secteurs qu'elle contrôle. Ceci en raison des tensions intérieures en Syrie. Mais c'est aussi la volonté de montrer qu'elle est toujours la maître du jeu au Liban, d'autant plus que l'armée syrienne cède la place aux palestino-progressistes et aux Palestiniens. Immédiatement, Begin annonce qu'Israël est prêt à porter secours aux chrétiens devant le renforcement des palestino-progressistes. Maintenant, ces alliés chrétiens d'Israël sont eux-mêmes extrêmement divisés. Périodiquement, la milice de Bachir Jebaï et les forces libanaises se confrontent avec les maradas des frangiers, d'autres milices chrétiennes, et à la milice des partisans de Kabi Chamon, des chamonistes. Je n'ai pas de nom ici. Désolé. On a donc une situation caractéristique des problèmes de la guerre civile libanaise, qui est que les gens interprètent la guerre du Liban comme l'affrontement de blocs confessionnels, alors qu'en réalité, les violences sur le moment sont plus des violences interchrétiennes d'un côté et intermusulmanes de l'autre, quand par exemple Amal combat les Palestiniens et les progressistes au Liban Sud ou à Beyrouth, tandis que parallèlement, les milices chrétiennes s'opposent les unes aux autres pour le contrôle secteur chrétien. Néanmoins, en février, je n'ai pas la photo que je cherchais. Désolé. En février 1980, nouvelle étape de la normalisation des rapports entre... entre Israël et l'Égypte, c'est l'ouverture des relations diplomatiques. Begin a choisi l'un de ses proches, Eliyahu Ben Elissar, pour être le premier ambassadeur israélien dans un pays arabe. Il présente ses créances le 26 février 1980 et il est reçu avec tout le protocole et la courtoisie nécessaires, mais se rend compte rapidement que la bonne société égyptienne refuse de répondre à ses invitations. Alors, à la fois du fait qu'il y a une forte hostilité à Israël dans les classes dirigeantes et dans la population égyptienne en général, il y a le fait aussi que Ben Elissar est un homme du Likoud, et qu'il provoque donc une forte hostilité. En revanche, Sadat a désigné un diplomate de carrière égyptien, Saad Murtada, qui, lui, cherche à, et profite de ses contacts à entrer dans les milieux dirigeants israéliens et multiplier les marques de réception sur place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons les mémoires de Saad Murtada d'un côté et les mémoires de Ben Elissar de l'autre, et qu'on peut s'amuser à croiser les deux textes pour voir la différence de traitement. Et plus, par ailleurs, il y a encore des séries de contentieux qui ne sont pas réglés, que les Égyptiens, pour l'instant, maintiennent à un niveau relativement bas parce qu'ils sont intéressés directement par la fin de l'évacuation israélienne, mais les Égyptiens rappellent régulièrement aux Israéliens qu'il y a d'autres contentieux que ceux évoqués par le traité de Washington. Il y en a un relativement technique, mais qui est tout à fait caractéristique de la région, qui renvoie à la question des lieux saints de Jérusalem. Après 1967, les Israéliens ont cédé l'église copte de Der Sultan à Jérusalem aux Éthiopiens, l'église éthiopienne étant de même rite que l'église copte. L'Égypte exige la rétrocession de l'église aux Coptes, mais les Israéliens refusent, car ils ont besoin de maintenir de bons contacts avec le gouvernement révolutionnaire éthiopien après la chute du Négus, en particulier à cause du sort des Juifs éthiopiens, les Falachas. Mais donc, tant que Boutros Ghali est un acteur important de la politique étrangère égyptienne, en tant que copte, il relance la revendication sur l'église de Der Sultan. C'est un exemple, mais ça renvoie à ce cauchemar permanent qui est le statut des lieux saints de Jérusalem, qui, je vous garantis, a au moins pour première vertu de remplir les dossiers diplomatiques des archives sur des maîtres et des maîtres linéaire de documents. Alors, plusieurs fois de suite, en particulier le 1er mars 1980, le Conseil de sécurité rappelle par des résolutions successives que toutes les mesures prises par Israël à Jérusalem et dans les territoires occupés sont nulles et non avenues parce que contraires à la 4e convention de Genève. Alors, ce vote, les Américains ayant accepté de voter cette résolution, provoque une crise intérieure aux États-Unis. Au sein du Parti démocrate, le principal adversaire de Carter, Edward Kennedy, affiche son amitié envers Israël et proteste véhémentement contre ce vote sur le statut des territoires occupés. Alors Carter fait machine arrière en parlant d'une erreur de communication entre Washington et New York. Les gouvernements américains, enfin, le représentant américain aurait dû s'abstenir et non pas voter oui à la résolution. Alors, avec un tel comportement, on n'acquiert qu'une seule chose, c'est qu'on se met à dos tout le monde, puisque aussi bien les Arabes que les Israéliens. Alors, de ce fait, les Européens, eux, travaillent toujours à leur idée d'une résolution européenne spécifique. Ça se voit en particulier lors de la visite du président Giscard d'Estaing au Proche-Orient, qui fera d'ailleurs du bruit à l'époque, puisqu'on accusera le président Giscard d'Estaing d'avoir regardé Israël par une longue vue au lieu d'accepter de se rendre en territoire israélien. Je ne sais pas si les gens se rappellent, on mettra la photo du président Giscard d'Estaing en train de regarder avec des jumelles Israël, et lui répliquera que c'était JC d'une photo prise sur un champ de course et non pas dans la vallée du Jourdain. Les tons est assez violent. Israël accuse la France, en particulier les Européens en général, de vendre Israël aux intérêts pétroliers arabes. Et Begin reprend son argument habituel, assimilant les Palestiniens aux Allemands des Sudètes en 1938. Donc accusant les Européens ou les Occidentaux de vouloir préparer un nouveau Munich. Et d'ailleurs, on voit très bien encore le renforcement de la ligne dure dans le gouvernement israélien avec la désignation d'Itzhak Shamir comme ministre des Affaires étrangères après la démission de Dayan le 10 mars 1980. L'ancien chef du groupe Stern avait voté contre la ratification des accords de Camp David et du traité de Washington en tant que député. Donc, en tant que ministre, il est chargé d'appliquer une politique contre laquelle il a voté en tant que député. Et on a donc des violences aussi dans les territoires occupés, c'est malheureusement lassant. Violence qui provoque un risque de représailles israéliennes au Liban, mais elle l'est limitée tant que Begin est en visite officielle aux États-Unis. Mais une fois que Begin est rentré, l'ALS, l'armée du Liban Sud, donc la milice alliée d'Israël, attaque la Finul et bombarde des agglomérations du Liban Sud. Les pertes de la Finule sont considérables. Plusieurs casques bleus, dont des casques bleus irlandais, sont tués, ce qui accroît la tension entre les Européens et Israël. Et parallèlement, la tension régionale se maintient, puisque d'un côté, la tension monte entre l'Irak et l'Iran. le gouvernement révolutionnaire iranien assimilant l'Irak à Israël. Ce qui sera d'ailleurs le grand thème de la propagande iranienne, le régime sioniste de Bagdad. Hein. Et évidemment, ça se répercute sur le Liban, puisque Amal, au Liban, qui est pour l'instant l'allié de l'Iran, s'en prend aux bases pro-irakiens et aux milices palestiniennes d'obédience irakienne à Beyrouth. Donc, vous voyez, dès que vous avez une tension, par exemple ici, entre l'Irak et l'Iran, ça se reproduit dans l'espace libanais entre les pro-iraniens et les pro-irakiens. C'est pour ça que les Libanais parlent à l'époque, après le livre de Hassan Tueni en 1985, d'une guerre pour les autres. Ça, c'est tout à fait caractéristique de la situation. Néanmoins, les Américains, n'arrivant pas de solution diplomatique dans l'affaire des otages, tentent un coup de force en Iran qui est un échec désastreux, qui amène la démission de Cyrus Vance et l'aggravation de la crise. On est maintenant en campagne électorale aux États-Unis pour les élections présidentielles de la fin de 1980. Et après une très dure compétition au sein du Parti démocrate, Carter arrive in extremis à battre Edward Kennedy, qui a imposé sa candidature à la candidature, tandis que Ronald Reagan l'emporte relativement facilement à l'intérieur du Parti républicain lors des primaires du Parti américain. En Cisjordanie, on a des attentats menés contre des colons extrémistes de Hébron le 2 mai, ce qui fait 6 morts dans leur rang, ce qui provoque l'expulsion immédiate des maires d'Hébron, de Kralkoul et de l'imam d'Hébron, Raja Tamimi, par les autorités israéliennes. Ces trois personnalités des territoires sont expulsées par hélicoptère au Liban dès le 3 mai. Je suis en violation même de la loi israélienne, puisqu'aucun acte juridique n'a été fait. Et ça va provoquer, évidemment, une nouvelle tension. Dans ce cadre, on pense aujourd'hui, rétrospectivement, que l'attentat d'Hébron contre les colons, qui a été revendiqué par le Fatah, a été en fait monté par un groupe qui s'appelle la Brigade du Jihad islamique, qui est en effet un mouvement d'obédience Fatah, mais d'inspiration islamiste. Le Fatah, c'est un peu un parti attrape-tout. Et là encore, c'est un signe. On voit apparaître les mouvements islamistes dans le secteur. Et donc, dans ce contexte, Ezer Weizmann démissionne à son tour parce qu'il n'accepte pas la politique de fermeté sur le dossier de l'autonomie palestinienne. Et Begin veut éviter de nommer Sharon comme ministre de la Défense. Donc, il prend l'intérim de Weizmann comme ministre de la Défense, au moins de façon temporaire. Et en Cisjordanie même, les mouvements extrémistes des colons organise une série d'attentats contre des personnalités palestiniennes, en particulier Haïm Ralaf, le maire de Naplouse et le maire de Ramallah, Bassam Chaka pour Naplouse et Karim Ralaf pour Ces deux personnalités sont grièvement blessées. Un troisième maire est visé, mais la bombe n'explose pas. Alors, tout indique que les attentats sont menés par des extrémistes juifs qu'ils revendiquent au nom de l'Organisation des combattants de la liberté, terreur contre terreur. Mais il faudra 4 ans pour que le service de sécurité intérieure israélien arrive à arrêter les responsables de l'attentat, parce que c'est plus difficile de faire des enquêtes en milieu juif puisqu'on ne dispose pas de législation antiterroriste adéquate, c'est-à-dire des détentions administratives sans jugement, isolement complet de 14 jours dans une cellule, destruction des maisons des suspects et autres moyens de pression. Ça on peut utiliser pour la population arabe, mais on ne peut pas l'utiliser contre la population des colons, bien que le droit israélien le permet, puisqu'il s'agit en fait de la législation d'urgence héritée du mandat britannique. Alors, une nouvelle fois, l'ONU rappelle qu'il faut respecter la 4e convention de Genève. Cette résolution passe par 14 voix contre 0 au Conseil de sécurité. Les États-Unis s'abstenant. Le commentaire de Begin, cette résolution constitue un des coups les plus durs qui ont jamais été portés contre la justice, l'honnêteté élémentaire, le sens moral des nations et le Conseil de sécurité lui-même. Et ensuite, l'Europe, après le vote, sous l'impulsion française, arrive à ce qu'on appelle la déclaration de Venise du 12-13 juin 1980 lors du sommet européen de Venise, donc ce qui va être appelé dans l'histoire la déclaration de Venise, qui se place dans le cadre du dialogue euro-arabe et la nécessité d'en développer la dimension politique. Et donc cette déclaration de Venise, j'en cite quelques extraits, elle est longue évidemment. Le moment est venu de favoriser la reconnaissance et la mise en œuvre de deux principes universellement admis par la communauté internationale, le droit à l'existence et à la sécurité de tous les États de la région, y compris Israël, et de la justice pour tous les peuples, ce qui implique la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien. Je cite, le problème palestinien qui n'est pas un simple problème des réfugiés doit enfin trouver une juste solution. Le peuple palestinien qui a conscience d'exister en tant que tel doit être mis en mesure par un processus approprié défini dans le cadre du règlement global de paix d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination. Donc la communauté européenne reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Les 9 rappellent la nécessité pour Israël de mettre fin à l'occupation territoriale qu'il maintient depuis le conflit de 1967, comme il l'a fait pour une partie du Sinaï. Ils sont profondément convaincus que les colonies de peuplement israéliennes représentent un obstacle grave au processus de paix au Moyen-Orient. Les 9 considèrent que ces colonies de peuplement, ainsi que les modifications démographiques et immobilières dans les territoires arabes occupés, sont illégales du point de vue du droit international. Donc, cette déclaration reprend les grands thèmes déjà évoqués à l'ONU et s'est fondée sur le principe de l'exigence de la double reconnaissance, reconnaissance des Palestiniens par les Israéliens et reconnaissance des Israéliens par les Palestiniens. Les États-Unis sont contents du fait que la déclaration de Venise n'implique pas une reformulation de la résolution 242. Et en revanche, la réponse gouvernementale israélienne le 15 juin 1980 est la suivante. Il ne restera de la déclaration de Venise qu'un souvenir amer. La déclaration nous demande, et à d'autres nations, d'inclure dans le processus de paix les SS arabes connus comme l'OLP. Donc on voit combien la rhétorique radicale israélienne du gouvernement Begin assimile de plus en plus les Palestiniens, l'OLP, au nazisme. On est dans une montée dans le discours israélien du Likoud de l'assimilation arabe égale nazi ou palestinien égale nazi et ainsi de suite. Alors les déclarations européennes sont absolument magnifiques, mais elles posent un problème. C'est comme qui est le problème fondamental de toute politique étrangère européenne, c'est qu'une politique étrangère européenne, elle est toujours d'abord une négociation entre membres de l'Union européenne. Et une fois qu'ils ont à peu près arrivé à se mettre d'accord sur un texte, sur une orientation politique, ils sont tellement épuisés qu'ils n'ont plus la force de mettre en application le texte qu'ils ont adopté. C'est pour ça qu'en général, l'Union européenne est extrêmement forte pour définir des principes et extrêmement faible pour pouvoir les appliquer. Parce qu'une diplomatie européenne, c'est d'abord une diplomatie entre Européens. On en reste là pour cette question. Et on essaye toujours en Israël de renforcer l'emprise sur les territoires occupés face au vote de l'ONU, face à la déclaration de Venise. C'est ainsi que le 23 juillet 1980, la loi sur la définition de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qui est une loi fondamentale ayant valeur constitutionnelle, est adoptée en première lecture par la Knesset et adoptée en lecture définitive, à peu près comme modification, le 31 juillet. Alors je rappelle, pour essayer de faire comprendre de quoi il s'agit, qu'Israël n'a pas de constitution. C'est parce que la Constitution impliquerait de définir ou non l'appartenance religieuse d'Israël, enfin le rôle. Donc Israël a des textes de valeur constitutionnelle, qui sont la déclaration d'indépendance et progressivement un certain nombre de lois qui sont appelées les lois fondamentales, qui ont valeur de constitution, mais qui ne sont pas une constitution, parce que la constitution serait obligée de définir la nature de l'État d'Israël, c'est-à-dire conduirait à une opposition entre le religieux et laïque en Israël. Cela dit, la France, rien d'étonnant, a connu ça sous la Troisième République. La constitution de la Troisième République n'était qu'une série de lois fondamentales et non pas une constitution proprement dite. C'est pour ça que c'était la plus courte des constitutions françaises. Ce qui fait d'ailleurs que la Troisième République avait été le régime le plus long que la France avait connu. Donc, bon, c'était une plaisanterie de constitutionnalistes qui disaient que la durée d'un régime est inversement proportionnelle à la taille de sa constitution. Mais bon, la Ve République est en train de progressivement de rattraper la Troisième, donc la plaisanterie n'est plus si valide que cela. Du coup, l'Égypte suspend les négociations sur l'autonomie en protestation de l'adoption de la loi sur le statut de Jérusalem. En pratique, on l'a bien vu, les uns et les autres ne se sentent pas vraiment pressés de faire avancer les discussions sur l'autonomie, donc ça les arrange tous les deux de suspendre les conversations. Donc, de façon courtoise, par échange de lettres, Sadat et Begin se mettent d'accord pour attendre le résultat des élections présidentielles américaines avant de relancer les discussions sur l'autonomie. En revanche, à l'ONU, le vote de la loi constitutionnelle, enfin la loi fondamentale israélienne, provoque une nouvelle résolution, la 476 du Conseil de sécurité, affirmant que cette loi n'a aucune valeur légale, ainsi que toutes les autres mesures prises par Israël en Jérusalem. Et cette résolution appelle tous les États ayant des représentations diplomatiques auprès du gouvernement israélien à Jérusalem de fermer leurs représentations diplomatiques. Et ce que les intéressés font, puisque la Hollande, qui était le seul État européen à avoir une ambassade à Jérusalem, ferme son ambassade, ainsi que 12 États sud-américains qui ferment leur ambassade ou les transfèrent à Tel Aviv. Donc la réaffirmation de principe par les Israéliens, enfin par le gouvernement Begin, du statut de Jérusalem a eu pour conséquence la fermeture des ambassades présentes à Jérusalem. Alors nous revenons toujours au Liban, avec le mécanisme habituel, l'opération de Fedayin palestinien à partir du Liban contre Israël, qui ensuite conduit à des actions de l'ALS et de l'armée israélienne dans la région du Liban Sud, ceci est la mi-mai 1980, ce qui met les chiites au stade d'exaspération absolument total, et donc ça a conduit à un affrontement entre Hamal et les Palestiniens. Vous voyez sur cette photo un milicien d'Hamal. Le nouveau chef d'Hamal, Nabi Berri, est un avocat né en Afrique noire et qui a vécu aux États-Unis. Il a même eu la green card aux États-Unis, la carte de résident. Et Hamal passe à une étape décisive puisque Hamal commence à liquider les cadres communistes au Liban Sud parce que les communistes sont la principale concurrence du mouvement. Hein, historiquement parlant, le mouvement communiste avait des cadres chrétiens et des militants chiites. Et Hamal donc liquide les cadres chrétiens pour récupérer les militants. Et donc, dès 1980, commence cette espèce de massacre feutré des militants progressistes libanais par les forces islamiques, soit Hamal, soit Hezbollah, pour prendre le contrôle de la communauté chiite. Dans cette affaire, Hamal bénéficie du soutien de la montée de l'anticommunisme dans les populations musulmanes à la suite de l'intervention soviétique en Afghanistan. De plus, les communistes sont les alliés des Palestiniens et les Palestiniens sont de plus en plus impopulaires dans la population chiite libanaise. On voit très bien que Hamal récupère le discours venu des chrétiens de la lutte contre l'implantation palestinienne au Liban, ce qu'on appelle le Tawtin. En arabe, c'est plus que l'implantation, c'est faire de cette région sa patrie. Hein? Et Hamal va passer, selon la rhétorique libanaise, des séries d'accords avec l'OLP et les violer systématiquement. Mais ce n'est pas grave, parce que les Palestiniens sont habitués à faire ce propre jeu. Alors, la complexité libanaise, hein, vous rappelez le principe de base que si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. La complexité libanaise se retrouve dans le fait que les plus anti-palestiniens et anti-mouvement national à Hamal sont les éléments laïcs du mouvement. Tandis que ceux qui déplorent les affrontements et font de la cause palestinienne leur cause, ce sont les islamistes radicaux qui sont encore partis de Hamal à cette date. Mais à fur et à mesure qu'en Iran, les laïcs révolutionnaires perdent le pouvoir, hein, Rozadeh Ben Essadr, au profit de la tendance cléricale, les relations se distendent entre Amal, qui soutenait plutôt la mouvance laïque de la révolution islamique, et un Iran révolutionnaire, mais un Iran révolutionnaire qui est de plus en plus clérical d'inspiration. Plus Amal reproche à Téhéran d'entretenir des relations diplomatiques et de se rapprocher de la Libye de Kadhafi, alors que depuis la disparition de l'imam Moussa Sadr en Libye, le régime de Kadhafi est l'abomination des abominations pour les chiites d'Amal. Alors les Syriens proposent leur médiation entre leurs différents alliés au Liban, hein, mais évidemment c'est tout à fait précaire. Alors la dernière solution, quand des forces locales se battent au Liban, on dit c'est la faute à Israël, au complot israélien, au complot sioniste. Mais pendant ce temps-là, en effet, l'Israël et l'ALS, compte tenu leur harcèlement des Palestiniens, et donc la réponse d'Arafat entre les attaques d'Amal d'un côté et de l'ALS et des Israéliens de l'autre, est de procéder à ce qu'il appelle la militarisation de ses forces, c'est-à-dire la volonté de passer le stade de la guérilla à la constitution d'armées régulières, de forces régulières en tout cas, disposant de matériel de combat lourd, des tanks, de l'artillerie, etc. Alors les tenants de la guerre populaire contestent l'orientation de ce qu'on appelle la militarisation des forces de l'ONP. Mais la réponse, c'est que jamais la pseudo-guerre révolutionnaire menée par les fédayines palestiniens n'a conduit à un moindre résultat contre Israël. Mais du coup, la militarisation des forces de l'ONP permet à Israël de s'en prendre à la menace croissante que les forces palestiniennes entretiennent au Liban. Donc on a des séries habituelles de paradoxes locaux qui fait que les attaques verbales de la propagande israélienne contre l'ONP renforcent l'ONP par rapport aux autres. Parce que si les Israéliens s'en prennent à vous, c'est que vous existez, que vous êtes fort. Et que donc vous avez bien un résultat politique. Hein ? Alors, ces combats entre chiites et palestiniens sont doublés de combats entre Amal et les forces pro-irakiennes, ce qui a déjà été mentionné. Mais rassurez-vous, de l'autre côté, c'est la même chose. Le 6-8 juillet 1980, Bachir Gemayel lance une offensive éclair et liquide la milice de Camille Chamoun. Photo magnifique. Vous voyez Pierre Gemayel recueillant Camille Chamoun après la destruction de sa milice. Et donc Bachir Gemayel intègre de force ce qui reste de la milice de Chamoun au sein des forces libanaise. Maintenant, Bachir Gemayel est devenu le seul chef militaire du réduit chrétien, puisque tous ses concurrents ont été éliminés dans le sang. Hein. Alors, Arafat dénonce le complot sioniste, c'est pour la forme, sinon ça fait toujours partie de la première partie de la phrase. Et puis ensuite accuse Bachir Gemayel de vouloir devenir le président, prochain président du Liban dans le but d'étouffer la révolution palestinienne et le mouvement national. Et Arafat appelle à la mobilisation des Palestiniens et de leurs alliés, formule « Nos armes décideront du sort de cette région. Mais il est vrai que le programme du jeune chef chrétien, il a 33 ans, est de libérer le Liban de toutes les forces étrangères, c'est-à-dire les Syriens et les Palestiniens. Il s'agit non seulement d'expulser les forces armées palestiniennes, mais la totalité de la population palestinienne du Liban, afin que le Liban revienne à ses légitimes propriétaires. Bachir Gemayel se présente en chef de guerre, mais tente pas à faire comprendre que son but est aussi de rénover les institutions politiques libanaises. Les forces dont disposerait Bachir Gemayel, ou qu'il prétend en tout cas publiquement disposer, seraient de 15 000 combattants permanents et 25 000 réservistes. Et Bachir Gemayel commence à utiliser le slogan d'une prochaine guerre de libération contre les Palestiniens et les Syriens. Arafat réplique en disant « Il faut que tout le monde comprenne que le fusil libano-palestinien libérera le Liban des agents du sionisme et de l'impérialisme. » Mais ce qui est net sur le terrain, c'est qu'il y a un contraste réel entre un réduit chrétien où maintenant les forces libanaises construisent un véritable État dans l'État, fournissant des services sociaux, disposant de l'appui d'une grande partie de la population, c'est-à-dire que le réduit chrétien devient un espace d'ordre, un régime de droite, hein, mais un espace d'ordre, tandis que la zone musulmane est soumise au désordre permanent des différentes milices musulmanes qui se combattent les unes contre les autres. Et on peut parler à propos du régime des milices musulmanes d'une véritable voyoucratie entre les différentes forces palestiniennes et libanaises. Alors, à Tripoli, dans le nord Liban, le conflit se dédouble dans un conflit entre sunnites, entre les milices sunnites libanaises et les qui sont proches des frères musulmans syriens, et les milices alaouites qui sont proches du régime syrien. Donc la guerre civile en cours en Syrie se répercute à Tripoli entre forces libanaises, enfin, entre forces politiques libanaises, pas le mouvement des forces libanaises. Les combats qui s'étendent au Liban Sud après des raids israéliens au mois d'août provoquent de très nombreuses destructions. En particulier, des villages libanais sont intégralement détruits par l'aviation israélienne. En réplique, les Palestiniens commencent à tirer des tirs de roquettes, des Katyusha, des orgues de Staline, sur la Galilée israélienne. C'est-à-dire que les Palestiniens vont tenter de se doter d'une capacité de dissuasion, à leur tour, face aux raids aériens israéliens. Arafat, les chefs et les forces communes, c'est-à-dire donc les milices qui obéissent officiellement à Arafat et au mouvement national libanais, s'inquiètent du danger d'être pris, comme disent-ils, en accordéon dans une opération commune que lancerait au sud l'armée israélienne et au nord les forces libanaises. Et cette idée maintenant qu'il va y avoir une offensive commune menée par Bachir Gemayel d'un côté et l'armée israélienne de l'autre s'impose de plus en plus dans les esprits. Alors, pour finir de vous compliquer une région qui est vraiment plus qu'un arc de crise, le 17 septembre 1980. Saddam Hussein déclare nul et non avenu les accords d'Alger entre l'Irak et l'Iran et revendique la souveraineté sur la totalité des eaux du Chatt el-Arabe. Et le 22 septembre, l'armée irakienne envahit l'Iran. C'est le début de la guerre Irak-Iran, que je définirais avec un certain nombre d'historiens comme étant la première guerre du Golfe. Et non pas, les Américains appellent première guerre du Golfe celle de 90-91, mais en réalité, la première guerre du Golfe, c'est la guerre Irak-Iran. Celle de 90-91 est la seconde guerre du Golfe, et celle qui commence en 2003 est la troisième guerre du Golfe. Donc, la défense iranienne désorganisée cède. Le matériel de guerre iranien, en particulier l'aviation, est en bonne partie hors service du fait de manque de pièces détachées américaines. Mais en revanche, le régime révolutionnaire bénéficie d'une union nationale face à l'envahisseur. Donc, nous arrêterons là. Vous avez vu donc pour ces deux heures comment ce qu'on avait appelé l'année dernière de l'expression Brzezinski au début 1979 l'arc de crise. Maintenant, c'est considérablement renforcé et qu'on n'est plus dans un cadre géographique défini prioritairement par le conflit israélo-arabe, mais dans un cadre défini par une série de conflits qui vont se centrer sur trois régions, la Palestine, Israël, Liban, première région, le Golfe, seconde région, l'Afghanistan, troisième région. Et évidemment, ces conflits sont tous entremêlés. Ceci pour bien saisir que nous sommes là vraiment dans notre géopolitique d'aujourd'hui. Je vous remercie, j'ai dépassé le temps de la bande magnétique.